Cette phrase de ce cantique que nous connaissons bien, qui a été rappelée dans la prière, « Pour moi, vivre, c'est Christ », nous connaissons bien le passage, c'est l'apôtre Paul dans les Philippiens qui exprime cela dans un contexte qui est au fond un peu différent de ce que évoque notre cantique. Les deux côtés, les deux manières d'aborder la chose, comme c'est évoqué dans le cantique, ou comment Paul le dit, ont chacun je le dis comme ça, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de dire, ont leur intérêt, c'est plus qu'un intérêt, ont leur place. Et je voudrais bien relire d'abord le passage des Philippiens où Paul utilise cette expression. Au chapitre 1er des Épîtres aux Philippiens, on va lire le paragraphe à partir du verset 12. Or, frères, je veux que vous sachiez que les circonstances par lesquelles je passe sont plutôt arrivées pour l'avancement de l'Évangile, en sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ, dans tout le prétoire et tous les autres et à tous les autres, et que la plupart des frères, ayant dans le Seigneur pris confiance par mes liens, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ aussi par envie et par un esprit de dispute, mais quelques-uns aussi de bonne volonté, et ceci par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Ceux-là annoncent le Christ par esprit de parti, non pas purement, croyant susciter de la tribulation pour mes liens. Quoi donc ? Toutefois, de toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé. Et en cela, je me réjouis et aussi je me réjouirai. Car je sais que ceci me tournera à salut par vos supplications et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma vive attente et mon espérance que je ne serai confus en rien, mais qu'avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Car pour moi vivre, c'est Christ, et mourir un gain. Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine, et ce que je dois choisir, je n'en sais rien, mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est beaucoup meilleur. Mais il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. Et ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi, afin qu'en moi, vous ayez plus abondamment sujet de vous glorifier dans le Christ Jésus par mon retour au milieu de vous. On va s'arrêter là. Les circonstances de Paul, c'est la prison, c'est les liens, ce qu'il évoque au début de ce qu'on a lu. Mes liens, les circonstances par lesquelles je passe, c'est l'emprisonnement. Avec l'emprisonnement pour le nom du Seigneur. L'emprisonnement à Rome. Avec, dans le cadre du droit romain, pas beaucoup de nuances. Innocent, il est libre. Coupable, c'est la mort. Ou travaux forcés, des choses de ce genre-là. Donc quelque chose de bien solennel. Et première étape dans ce paragraphe, Paul relève l'effet direct, immédiat de ces liens. D'une part, ils sont devenus manifestes comme étant en Christ, dans tout le prétoire et à tous les autres. Tous ceux qui sont au courant de la situation de Paul savent que c'est pour ce Jésus. Que savent-ils de lui? Très variable entre des Romains, des citoyens de Rome, des habitants de Rome, les fonctionnaires de l'Empire, les frères et sœurs en Christ, des Juifs de Rome, des étrangers de passage, toutes sortes de personnes qui connaissent bien ou connaissent pas du tout le Seigneur Jésus. Mais voilà, ces liens sont devenus manifestes comme étant en Christ. Il n'est pas là comme un voleur, comme un meurtrier, il est là pour, à cause de ce dénommé Jésus, un certain Jésus, comme dit Festus dans les Actes, ou même Festus dit qu'il est mort et que lui dit être vivant. Voilà. Il y a controverse autour de ce nom de Jésus et ça interpelle. Et c'est clair pour tout le monde, tous ceux qui connaissent la situation de Paul, que c'est pour cela qu'il est dans ces liens, qu'il est emprisonné. Et puis la deuxième, et cela, Seigneur, Paul peut, dans un sens, s'en réjouir, parce que le nom de Christ est mis en avant. Et lui, en tant que lui, Paul, il est là, visible, pour les yeux du corps, pour ceux qui le voient, comme témoin de Christ. Et puis alors la deuxième raison, la conséquence de cela, c'est que la plupart des frères, verset 14, ayant pris confiance par mes liens, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer la parole sans crainte. La situation de Paul et l'attitude de Paul donnent du courage aux autres croyants à Rome, autour de lui, pour annoncer la parole sans crainte. Alors il y a une parenthèse, quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ aussi par envie, je ne m'arrêterai pas sur cette parenthèse. Voilà, il y a des bonnes et des mauvaises manières de faire un bon service. Et Paul ne développe pas beaucoup la chose. Sa conclusion, verset 18, « Toutefois, de toute manière, soit comme prétexte, soit en vérité, Christ est annoncé. Et en cela, je me réjouis et aussi je me réjouirai. » Savons bien que la joie, se réjouir, est quelque chose qui traverse cet épître. Et c'est quelque chose de très rafraîchissant quand on la parcourt, si on la lit d'un seul coup, relativement rapidement, ça ressort comme une atmosphère où alors même qu'il y a des circonstances difficiles dans la vie de Paul, alors même qu'il doit faire plusieurs fois des allusions ou des réflexions, des choses directes sur des tensions qu'il pouvait y avoir à Philippe, le côté de la joie et de la joie dans le Seigneur est, est un des fils conducteurs de cet épître qui donne l'atmosphère de l'épître. Là, malgré que certains annoncent l'Évangile pour des motifs qui ne sont pas purs, qui ne sont pas heureux, ils annoncent quand même l'Évangile et Paul peut s'en réjouir. Est-ce que nous savons nous réjouir quand l'Évangile est annoncé, même d'une manière qui ne nous semble pas vraiment ce que le Seigneur demande, la manière dont le Seigneur demande? Est-ce que nous savons nous en réjouir ou est-ce que nous ne sommes pas plutôt souvent à critiquer, à rejeter, juste en passant? Et quelque part, là, Paul a des assurances. Il est dans une situation où il ne sait pas ce que sera la suite. Il ne sait pas ce que le juge, les juges sont en train de réfléchir, en train d'analyser, en train de faire. Mais il connaît, il vit près de son Seigneur. Et le Seigneur le rassure et l'encourage. Et c'est avec cela comme arrière-plan qu'il nous dit la suite. « Je sais que ceci me tournera à salut par vos supplications, par les secours de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma vive attente et mon espérance, que je ne serai confus en rien. Quoi qu'il arrive, c'est ce qui doit arriver, c'est préparé et c'est bien. Il y a les prières des croyants pour Paul, qui peut-être pour certains ne savent pas ce qu'il faut demander et qui prient simplement en demandant « Seigneur, fais ce que tu estimeras bon pour Paul. » D'autres prient peut-être plus expressément « Seigneur, délivre-le. » D'autres prient peut-être, d'autres plus voyant plus au côté de l'inquiétude, du risque, du danger, d'une condamnation, prient que ce soit, s'il doit être condamné, que ce soit pour ta gloire. Voilà. Pour la même circonstance, les prières dans leur contenu peuvent être très différentes, faites avec foi, dans la dépendance, selon l'Esprit. Et Paul, il émane là de ce qu'il dit là, une tranquillité quant à la suite. Alors c'est là que je ne serai confiant en rien, milieu du verset 20, mais qu'avec toute hardiesse, maintenant encore comme toujours, Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort. Que quelle que soit l'issue, sa marche, dans son corps physique, ses actes, ses paroles, que tout magnifie, manifeste la grandeur du Seigneur Jésus. Et c'est au fond le seul souci, si on peut dire, pas dans le sens d'une préoccupation, mais la seule, l'objectif intérieur qu'a Paul, c'est que quoi qu'il arrive, quant à ce qui est de sa vie terrestre, dans sa course, son chemin, quoi qu'il arrive, ce soit à la gloire du Seigneur. Et c'est là alors qu'il enchaîne en disant « Car pour moi vivre c'est Christ et mourir un gain ». Dans notre cantique, le verset a été coupé. « Pour moi vivre c'est Christ ». Et ça prend tout autre caractère qu'on verra après. Ici, les deux choses sont intimement liées. Vivre c'est Christ, en contraste, mourir. Mourir pour l'homme sans Dieu, c'est une fin. Qu'est-ce qui nous est dit de l'homme sans Dieu? Si on tourne quelques pages en avant, Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 12. « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance, étant sans Dieu dans le monde. » Pas d'espérance, sans Dieu dans le monde. Sans Dieu, ça veut dire pas d'espérance. Et après la mort, le jugement. Donc pas d'espérance, mais bien un devenir. Bien quelque chose. Ben, pour Paul, les choses sont toutes différentes. Vivre, c'est Christ. Et mourir, un gain. Ah oui, un gain. Et en quoi est-ce que c'est un gain ? Verset 23, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup meilleur. Vivre, c'est Christ, vivre, c'est marcher avec lui et pour lui sur la terre, mais dans un sens, je mets des guillemets, loin de lui. Non pas qu'il soit loin, il est proche, mais il est loin quand même. Comme nous le chantons un cantique, nous ne te voyons pas. Alors que mourir, c'est un gain, pourquoi ? Parce que c'est être avec Christ. Être avec Christ. Et cela est de beaucoup plus précieux. Ce n'est pas comparable à vivre le chemin de la terre. Le chemin sur la terre. Voilà ce que, dans quelle de la manière dont Paul exprime cette pensée-là. Vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. Être avec Christ est de beaucoup meilleur. Et en même temps, la suite du paragraphe nous montre, verset 22, « Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine, et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé des deux côtés. » Dans la mesure où Paul a quelque chose à choisir, c'est une manière de parler, il sait bien que c'est Dieu qui choisit pour lui, que c'est Dieu qui décide pour lui, que c'est Dieu qui donnera les choses comme elles doivent être. Mais s'il devait choisir, il est embarrassé. Pourquoi ? Parce que d'un côté, c'est qu'il est, verset 24, « Il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. » Il y a un service à accomplir sur la terre que le Seigneur m'a confié, et accomplir ce service à toute sa place. Être avec Christ, c'est beaucoup meilleur. Mais qu'est-ce que je dois choisir ? Pouvoir continuer le service que j'ai accompli jusqu'à présent, ou bien être avec Christ ? L'un est bien parce que c'est servir Christ, l'autre c'est mieux parce que c'est être avec Christ. Et le service est fini, il est derrière. Mais Paul a la conscience, il est plus nécessaire à cause de vous que je demeure dans la chair. Et alors, au verset 25, on voit qu'il a plus ou moins la conviction intérieure que le Seigneur le laissera encore sur la terre, que ce n'est pas encore le moment de partir. Ayant cette confiance, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour l'avancement et la joie de votre foi. Pour l'avancement et la joie de votre foi. C'est une belle expression. L'avancement de la foi, une foi qui grandit, une foi qui s'affermit, une foi qui se développe, une foi qui s'étend, qui est... Qu'est-ce que ça veut dire, l'avancement de la foi ? Ben, quand le jour où je me suis converti, le jour où on se convertit, on croit au Seigneur Jésus pour notre salut. Et petit à petit, dans la marche, on reçoit du Seigneur Jésus toutes les assurances qu'il nous donne pour toutes sortes de circonstances de la terre, de notre marche. Et toujours de nouveau, on découvre des choses pour lesquelles, ah ben oui, là aussi, ben, c'est la foi qui doit saisir cela. Je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit là, qui soit simple, mais je ne sais pas s'il me fait comprendre. Mais ça va au-delà de la joie du salut éternel. C'est la foi pour le quotidien. C'est la foi pour des circonstances que je n'imagine pas maintenant possibles et qui arriveront peut-être demain. C'est la foi pour des circonstances que je n'imaginais pas et qui sont là maintenant. On a bien des occasions, on a des témoignages de croyants qui ont goûté cela. Ben c'est l'expression un petit peu, oui, c'est une expression qui me vient, qui parle de ça, dans Hébreux 11, à la fin du chapitre, verset 34, où il y a cette, 33-34, il y a cette énumération de ceux que l'auteur ne peut pas nommer, passer en revue en détail, et au milieu du verset 24, de faibles qu'ils étaient, furent rendus vigoureux, devinrent forts dans la bataille. Ils devinrent forts dans la bataille. La foi, la confiance en Dieu, la confiance dans le Seigneur Jésus, dans les circonstances mêmes de l'épreuve qui est là. Si on avait décrit les circonstances avant, la personne, le croyant, aurait peut-être été effrayé, aurait été peut-être inquiet. Et dans les circonstances, la foi saisit les ressources et ils sont devenus forts dans la bataille. Ils ne sont pas allés à la bataille ayant des forces, mais ils sont devenus forts dans la bataille. Ça rejoint d'ailleurs un peu l'aspect que je voudrais voir après. L'avancement est la joie de votre foi. La joie. Une joie qui devrait être. Est-ce que nous le réalisons ? Non. Je peux dire pour moi-même, je ne le réalise bien souvent pas. La joie dans la foi. La joie en tout instant, en toutes circonstances. C'est quelque chose où nous avons certainement tous à faire des progrès, de connaître et de goûter cette joie et l'avancement de la joie et la joie de notre foi. Voilà pourquoi Paul a le sentiment qu'il va rester, qu'il doit rester et qu'il va encore rester, que le moment n'est pas encore venu de passer par la mort. Alors maintenant, par rapport à l'autre côté, ce côté de la manière dont cette expression est reprise dans ce cantique. Et je voudrais là, justement, reprendre quelques autres expressions. Le début du cantique, c'est « Seigneur, toi qui pour nous t'offris en sacrifice », c'est le point de départ. « Toi qui pour nous t'offris en sacrifice ». C'est le point de départ de notre course, c'est le sacrifice du Seigneur. Le point de départ de notre relation avec Dieu. Peut-être pas. Le point de départ de notre relation avec Dieu est peut-être avant notre conversion. Nous avons eu un temps où nous avons eu une relation pas claire, floue, des aspirations, des résistances, des choses que le Seigneur a pu nous dire et qu'on ne voulait pas entendre ou qu'on différait. Et puis à un moment, ces relations se sont clarifiées quand nous sommes venus à lui et que nous l'avons reconnu comme celui qui est mort en sacrifice pour nous. Et là, il y a un tournant. À ce moment-là, c'est le début, justement, de la course. Et alors, de plus loin dans la strophe, il nous est dit « Donne-nous de marcher malgré notre faiblesse ». J'aimerais plutôt tourner cette phrase un peu autrement. « Donne-nous de marcher avec notre faiblesse ». Et là, je voudrais lire dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, où Paul est amené à parler de choses que le Seigneur lui a donné à connaître, de quelque chose qu'il ne sait pas si ce fut dans le corps ou hors du corps, est-ce que c'était physiquement quelque chose ou bien uniquement une vision dans l'esprit, mais où il dit qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Quelque chose d'hors de l'ordinaire. Et verset 5, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. » Le mot « glorifier » là, pourquoi le mot « glorifier » ? Verset 7, « Afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations. » Glorifier, se glorifier, s'enorgueillir, c'est deux façons de dire un peu la même chose. C'est penser être quelque chose. C'est prétendre être quelque chose. C'est croire, intérieurement penser, croire, et extérieurement le dire, l'affirmer. Et si on pense être quelque chose, on est forcément au-dessus des autres. Alors, afin que je ne m'organise pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. Voilà, des choses extraordinaires d'un côté, et de l'autre côté, un boulet à porter, qui empêche de courir, qui empêche de se vanter, qui amène toute vanterie à rien du tout. On ne peut pas dire là, je suis fort, alors qu'en fait on est épuisé à porter un boulet. Il n'y a plus de place pour l'orgueil, pour une prétendue force, une prétendue grandeur. Et le paragraphe, je ne vais pas lire tout le paragraphe, si on peut lire quand même, parce qu'il y a des choses qui sont toujours précieuses à relire. Donc verset 7, « Afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Malgré notre faiblesse, ça pourrait penser que bon voilà, on a une faiblesse naturelle et puis malgré ça, il faut courir quand même, mais on traîne la patte. C'est pas de cette faiblesse dont il s'agit là. Et alors je voudrais lire 2 passages où, pour illustrer ce que ça ne doit pas être. D'abord dans le livre des Nombres, ça doit être au chapitre 13 ou 14. Chapitre 13, 14, c'est le moment, c'est le chapitre 14 que je veux lire. Les 2 chapitres nous parlent de cette occasion où Moïse envoie les espions, 12 espions, et regarder, explorer le pays, voir à quoi ils ressemblent, rapporter tout ce qu'ils ont vu, et où ils reviennent, et sur les 12 espions, 10 d'entre eux décrivent le pays très justement, mais avec une conclusion qui montrent leur manque de foi. Non, il y a des géants, ils sont beaucoup trop forts, il y a des villes avec des murailles qui montent jusqu'aux cieux, qui sont imprenables. Voilà, c'est pas possible de prendre ce pays. Les fils d'Anak, les géants, les fils d'Anak, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Qu'en savaient-ils ? Et puis là-dedans, Caleb et Josué répondent en disant « Oui, c'est bien cela, mais l'Éternel nous a promis ce pays. » Le « mais » est de toute importance. C'est le seul « mais » à opposer. L'Éternel nous a promis ce pays. Avec le secours de l'Éternel, nous pourrons prendre le pays. Je passe sur le reste du récit, qui se termine très tristement, et verset 39 du chapitre 12. Non, il faudrait lire un petit peu avant, mais avant Moïse, l'Éternel parle à Moïse et annonce ce qui va se passer, les 40 ans dans le désert, et toute la génération de ceux qui ont murmuré, les espions vont mourir, ceux qui ont murmuré en écoutant les espions mourront dans le désert, et ce seront leurs enfants qui entreront dans le pays promis. Verset 39, et Moïse dit ces choses à tous les fils d'Israël, et le peuple mena très grand deuil. Et ils se levèrent de bon matin et montèrent sur le sommet de la montagne, disant, « Nous voici, nous montrons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. » Et Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous ainsi le commandement de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis. Car l'Amalékite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Car parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. » Toutefois, ils s'obstinèrent à monter sur le sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp, et les Amalékites et les Cananéens qui habitaient cette montagne-là descendirent et les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Voilà une situation. Ça rejoint un peu des choses qu'on a considérées la semaine dernière, sous un autre angle. L'homme intérieur, l'état moral était mauvais. Et verset 39, le peuple mena très grand deuil. Oui, oui, peut-être. Mais avait-il vraiment entendu ce que l'Éternel avait dit? Les choses étaient faites. Les choses étaient décidées. Il n'y avait pas de retour en arrière. Et alors, non, maintenant on va aller à la bataille, maintenant on va y aller. Si l'Éternel est avec nous, il n'y a pas de problème, on va y aller. Malgré notre faiblesse, on va y aller. Et ils se sont battus et taillés en pièces. Parce que ce n'était pas la vraie faiblesse. Ce n'était pas la faiblesse dont Paul parle. C'était, voilà, ils se pensaient faibles à un moment, puis ils se croient forts à un autre moment, mais au fond, l'Éternel n'est pas à la place où il devrait être. Comme celui qui tient tout en sa main, comme celui qui guide, comme celui qu'on est appelé à écouter, à faire confiance. Caleb, Josué, qu'est-ce qui les différencie? C'est leur confiance en Dieu. Oui, les ennemis sont forts. Oui, nous sommes faibles. Mais c'est le combat de Dieu. Deuxième exemple qui va un peu dans le même sens, c'est au début du livre de Josué. On a des choses qui ressemblent d'ailleurs un petit peu dans le déroulement. Josué 7, verset 2. Or Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel, et leur parla, disant, « Montez et explorez le pays. » Et les hommes montèrent et explorèrent Haï, et ils retournèrent vers Josué et lui dirent, « Que tout le peuple ne monte pas, que 2 000 ou 3 000 hommes environ montent, et ils frapperont Haï. Ne fatigue pas tout le peuple en l'envoyant là, car ils sont peu nombreux. » Et il y monta du peuple environ 3 000 hommes, mais ils s'enfuirent devant les hommes d'Haï. Et les hommes d'Haï en frappèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Chebarim et les battirent à la descente. Et le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Plus loin, on a l'histoire des... les Gabaonites. Où il est dit explicitement, on n'interrogea pas l'Éternel. Il y a là aussi la pensée qu'on est fort, la pensée qu'on est capable. Et alors, on n'interroge pas. Josué manque là aussi de sagesse en envoyant des hommes espionnés. C'est des choses qui ont déjà été faites. Il y a eu Moïse qui a envoyé lui-même, est parti comme espion, un des 12. Il y a les 2 espions qui étaient envoyés pour voir Jéricho. On continue la chose qui était de Dieu au départ, qui devient une recette. Et puis quand ça devient une recette, ça ne marche plus. Parce qu'il n'y a plus la foi en action, il n'y a plus la dépendance. Ni le peuple, ni Josué n'ont conscience qu'il y a le péché d'Achan au milieu d'eux. Mais s'ils avaient interrogé l'Éternel, est-ce que l'Éternel n'aurait pas là interpellé d'une autre manière que nous ne pouvons pas imaginer? Ça n'a pas été, c'est inutile d'essayer d'imaginer. Mais voilà, il a fallu ce mouvement qu'on peut appeler, avec le langage du Nouveau Testament, une décision de la chair, un choix de la chair, pour que Dieu puisse interpeller Josué et le peuple et mettre à nu le péché d'Achan, qui impliquait de fait tout le peuple. Voilà encore un exemple de l'appréciation de fort et de faible. Et alors le troisième exemple, dans l'autre sens, mais avec un peu une limitation, c'est David devant Goliath. Si on lit juste au chapitre 1 Samuel 17, si on peut juste lire un peu avant, au chapitre 17, au verset 4, la description du Philistin, de Goliath. Il sortit du camp des Philistins un champion de l'armée. Son nom était Goliath, il était de Gath. Sa hauteur était de 6 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm, 40 à 50 cm. Donc 6 coudées, ça fait presque 3 mètres. 6 coudées, un empan. Et il avait un casque d'airain sur sa tête et était revêtu d'une côte de maille à écailles. Le poids de la côte de maille était 5000 sicles d'airain. Il avait des jambières d'airain aux jambes et un javelot d'airain entre ses épaules. Et le poids de sa lance était comme l'ensouple des cicerons, le bois de sa lance. Et le fer de sa lance pesait 600 sicles de fer. Et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Voilà une description qui ressemble. C'était un fils d'Anak aussi. C'est même type de personne que ceux que les 12 espions avaient vus de loin. Et puis, au verset 38, Saül revêtit David de ses vêtements et lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cotte de maille. Et David ceignit son épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il n'avait pas essayé. Et David dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec ces choses, car je ne les ai jamais essayées. » Et David les ôta de dessus lui et prit son bâton et sa main et se choisit du torrent 5 pierres lisses et les mit dans le sac de berger qu'il avait dans la poche, et il avait sa fronde à la main, et il s'approcha du Philistin. Et là, juste le verset 45, David dit au Philistin, « Toi, tu viens avec moi avec une épée, avec une lance et avec un javelot, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. » Et plus loin, verset 48, au milieu, David se hâta, courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. David mit sa main à son sac, il prit une pierre et la lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans son front et tomba sur sa face contre terre. Alors, il y a une limite dans l'application dans ce qu'on est en train de voir avec ce passage, en ce sens que là, on a vraiment le Seigneur comme image, on a vraiment David comme type du Seigneur, plus que comme image de ce que nous sommes. Mais en même temps, il y a bien des choses qui nous sont profitables à apprendre. Et la phrase qui importe là-dedans, disons, l'image, c'est d'une part, si on essaie de se représenter ça, ce géant dominant David, de la taille de David, 2 fois plus grand que lui. Toute sa corpulence devait être en conséquence. Il devait peser 150 kilos, quelque chose de genre là, au moins. Avec l'armure tout le poids de l'armure, la masse de l'armure, la dimension de toutes les armes. Et en face, David, avec sa tunique de berger, sa sacoche en bandoulière, 5 pierres dedans, 5 pierres choisies, et puis sa fronde, rien d'autre. Et cette phrase de David, « Mets-moi, et moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. » Toute la force de David était dans cette phrase-là, dans ce que porte cette phrase, de tout le contenu de cette phrase. Moi, je viens, pas avec toute cette armure défensive, pas avec toutes ces armes offensives, pas avec une taille énorme qui écrase tout. Non, je viens comme je suis. Comme je suis. Un jeune homme, un jeune garçon, quel âge avait-il ? 15, 17 ans ? Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Et puis, une fronde, 5 pierres, dont une seule suffira. Quand je suis faible, alors je suis fort. Je ne me rappelle plus où Paul dit ça. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Si un frère se souvient du passage. Voilà, c'est un peu ça le contenu. Et puis au fond, quelque part, le « pour moi vivre c'est Christ » prend tout son sens alors dans le cadre du cantique avec cela en arrière-fond. Ma faiblesse est une réalité, elle est. Et c'est plus avec ma faiblesse que malgré ma faiblesse que je dois aller. Avec ma faiblesse, avec la conscience, toute la conscience, que ma seule force est en lui. Que je n'ai pas de force, que je ne peux rien faire par même ma petite force. Je ne peux rien faire. Avec toute ma faiblesse, en Christ, je peux vivre Christ. On peut lire le verset 12 avant, « Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. »